Salut Edmund.
Salut Edouard.
Tu vas à Nova ce matin?
Eh oui, j'y vais. Eh oui.
Eh
oui,
mais tu...
Ouais.
Eh oui, mais t'es content d'y aller parce que t'as envie de donner.
Je suis heureux, je suis là.
Puis t'as envie, t'es comme un arc-en-ciel, t'es un petit soleil, t'es une petite boule d'amour qui a envie de rouler dans le cœur des gens.
Ouais, j'avais envie de sortir mon parapluie, mais je me suis dit non, soleil, amour.
Ouais, puis ta valise, elle est pleine d'émotions,
t'es un petit
clown, mais t'es aussi un champion, puis t'es mon ange, t'es mon soleil, t'es mon petit Noël, t'es mon
Arrête,
Jésus,
tu vas me faire chialer, là.
T'es mon Bouddha. Matinée tendresse ce matin pour ce jeudi, c'est le 4 ou le 5, Thierry Paret?
On est le 5, là.
Il est là, mon Thierry Paret, son journal.
Près de toi.
Plus près de toi.
Près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette. Tagada, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour à tous dans un premier temps, bien sûr. Thierry, qu'est-ce que vous nous proposez en journal de 7h01?
Puisque l'ambiance est plutôt bon enfant, plutôt
oui,
rire et la joie, la bonne humeur.
Sûr, c'est très
près. Je propose de parler de la pauvreté.
Ah, merci. Bien, allons-y.
Arrêtez d'instrumentaliser la pauvreté, réglons-la. Excédés par ce qu'elles estiment être des idées fausses et des stéréotypes véhiculés par les représentants politiques, pas moins de 51 associations de lutte contre la pauvreté et le mal-logement se sont unifiées hier pour interpeller ensemble les candidats à la présidentielle et lancer leur « autre campagne », entre guillemets. Les associations en ont assez d'être sages, a prévenu Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre et porte-parole du collectif des associations Unies. Toutes ces organisations se disent prêtes à organiser des mobilisations devant les QG de campagne. L'autre campagne commencera réellement à la fin du mois de janvier. Se fera aussi sur Internet avec la mise en place d'un site démontant les idées fausses ou grâce à des plateformes rassemblant des propositions des associations et des visuels relayés sur les réseaux sociaux. Parmi les idées fausses, il y a évidemment celle-ci, celle qui était défendue d'ailleurs par Laurent Wauquiez. Être smicard peut parfois, on peut parfois gagner autant en étant au smic qu'en ayant le RSA. C'est l'un des derniers procès consécutifs aux manifestations de l'an dernier contre la loi travail. Valentin Frex, un jeune homme qui prépare son CAPES de philosophie, va comparaître ce matin en correctionnel à Paris. Le 5 juillet dernier, il s'était interposé entre une documentariste et les CRS lors d'une manifestation aux abords de l'Assemblée nationale contre l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls. D'après l'accusation, il aurait arraché son insigne à un CRS. 8 mois avec sursis requis contre un agriculteur jugé pour avoir aidé des migrants. Oui. Il s'appelle...
Non mais pour l'insigne du CRS, je le dis, ne le faites pas.
Oui.
C'est quand même incroyable. Combien de fois on le répète?
On le répète. On a prévenu.
On a dit ne l'enlevez pas.
C'est dingue.
C'est pas sorcier quand même.
Non, c'est pas compliqué, je comprends pas. Moi-même, je comprends pas.
Ah non, mais je vous jure, il y a des jours...
Après les gens se plaignent.
Vous avez prévenu. Sortez du journal.
Mais vous allez voir qu'il y en aura d'autres aujourd'hui. 8 mois avec sursis requis contre un agriculteur jugé pour avoir aidé des migrants. Cédric Héroux est poursuivi pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Il a revendiqué devant le tribunal hier des actes politiques. Quelques 300 personnes, dont de nombreux membres d'un collectif d'aide aux migrants, se sont rassemblés devant le palais de justice pour le soutenir avant le début de l'audience.
On leur a dit, ne le faites pas. N'aidez pas les gens. Arrêtez d'être sympas. Arrête. On leur dit quand même. C'est quand même formidable.
Accusé d'avoir abattu un assaillant palestinien d'une balle dans la tête à Hébron alors que ce dernier était à terre, blessé, sans armes. Le soldat israélien Elor Azaria a été reconnu coupable hier d'homicide par la cour militaire israélienne. Il encourt 20 ans de prison et il sera définitivement fixé sur son sort dans quelques semaines. Alors ce procès exceptionnel, il divise profondément les Israéliens. Riyad al-Maliki, le ministre palestinien des Affaires étrangères, a dénoncé, je cite, un procès spectacle qui n'a pas mis en lumière la culture de l'impunité en œuvre dans l'armée israélienne. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a lui, au contraire, demandé pour sa part la grâce du militaire. Les Haïtiens n'en ont peut-être pas encore terminé avec leur présidentielle. On en parlait hier, alors que la victoire de Jovenel Moïse a été officiellement actée par la commission électorale. Ses principaux concurrents continuent à dénoncer un coup d'état électoral et refusent de reconnaître sa victoire. Donald Trump fait appel à, attention, on s'assoit, ça va faire mal, Henry Kissinger, un nom qui ne parlera sans doute pas aux plus jeunes. En revanche, les autres devaient certainement croire le bonhomme décédé. Que nenni, à 93 ans, l'ancien secrétaire d'État de Richard Nixon. Ouais, reprend du service, donc. Celui qui avait notamment contribué à normaliser les relations avec la Chine de Mao s'est proposé comme médiateur officieux pour aider Donald Trump dans ses relations avec la Chine et avec la Russie également. Premier chef invité de l'Orchestre Symphonique de Vienne depuis 86 et chef préféré de la Callas, le français Georges Prêtre a mené l'essentiel de sa carrière à l'étranger. Il s'est éteint à l'âge de 92 ans hier. Il est communiste, cégétiste, mais aussi cycliste. Ça rime, hein. Robert Marchand a établi hier sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines un nouveau record mondial de l'heure avec 22 km 547, soit 20 km/h en moyenne à peu près. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas terrible. En effet, pour le commun des mortels, c'est pas terrible. Quoique 20 km heure en même temps, faut quand même les faire. Mais faut préciser que Robert Marchand est âgé de 105 ans, c'est donc un record qui n'est pas prêt d'être battu.
Merci, merci beaucoup Thierry Paret. Alors depuis ce matin, voilà, on entend ces bruits-là. Voilà, c'est des bruits, ça mâche. C'est parce qu'on mange des croissants, on va pas mentir. Peut-être qu'il y a des, vous êtes chez vous, peut-être que vous n'avez pas encore accès aux croissants parce que vous n'avez pas la chance comme nous qu'il y a un type qui arrive, Florian Argou de chez Farine & Co. Vous arrivez le matin avec des croissants. Est-ce que le fait de dire votre nom va me faire un abattement de 20% sur les croissants ou quoi?
Peut-être.
Yes. Alors ça s'appelle Farine & Co. C'est à Paris parce que nous on est situé à Paris. Hein. Même quand on passe d'autres villes, c'est la magie de la radio. Vous pouvez nous écouter chez vous dans la campagne à côté d'Angers. Et pourtant nous on parle à Paris. Je vous expliquerai ces techniques. Et Florian arrive. Florian, vous n'êtes pas sensible au froid du tout puisque vous arrivez dans... Comment, c'est quoi, c'est une bam,
petit t-shirt,
une cotonnade, on est sur, voilà. Un, c'est pas un vêtement
léger, léger, toujours léger.
C'est à une taille small, pourtant vous êtes quelqu'un qui est bâti. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces croissants?
Vous le touchez beaucoup quand même.
Non, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces
on
croissants?
On pourrait dire, vu le bruit, qu'ils sont assez croustillants.
Voilà, on est dans le croustillant, on est sur un travail avec du beurre, c'est le fameux croissant au beurre.
C'est ça, le croissant au beurre.
Ça existe encore en boulangerie
efficace.
De dire un croissant, ah, oui, là, oui. Et croissant au beurre plus 40 centimes. Atman, combien coûte le ticket de croissant?
Non, le croissant, 95 centimes.
Jean-François Copat Atman, le ticket de croissant coûte combien?
95 centimes, non, ordinaire. Non. Ah si.
Et au beurre, ça a monté.
Ça a monté.
On est obligé, on a nos frais.
Indice chez nous.
Vous vous levez à quel
heure? Indice le beurre, mais 95 l'ordinaire. Attendez.
Indice le beurre chez Farineo.
Dans les yeux, je vous le dis, vous dites des erreurs.
Ça dépend des boulangers. Il y a les croissants au homard qui sont beaucoup plus chers. Et vous vous levez à quelle heure, Florian?
Assez tôt en ce moment, 4h.
Et vous vous couchez à quelle heure?
Assez tard, 22h.
Voilà, Atmen, oui. Voilà, c'est cette France-là. Et tu lui craches dessus et tu la méprises seulement, elle travaille, cette France-là.
Doucement,
pendant
l'ami.
Que tu te goberges avec tes amis, les bobos socialo-communistes. Excusez-moi, je suis épuisé. A tout de suite, il est 7h07. Merci, Florian.
7h09, plus près de toi.
Voilà, on est toujours là avec Florian Argou, le boulanger de Farineo.
Farine & Co.
Non, justement, c'est quand même incroyable. Je fais un travail de précision.
Oui.
C'est de l'horlogerie ce que je fais, c'est de l'orfèvrerie. Et vous saccagez en rajoutant des consonnes qui n'ont pas lieu d'être. Florian, vous avez pétri ce matin, vous avez fait quoi?
J'ai fait cuire toute la viennoiserie, d'autres font pétrir.
Voilà, Atman. Atman, vous êtes très intrigué par ce monde de la boulangerie.
Boulangerie avec tous ces poncifs et les mots qu'on entend dans les boulangeries qui sont par exemple,
Hein? Comment, Amari,
avec ceci, à bientôt.
Est-ce que qui va en boulangerie chez vous?
Moi.
C'est vous? Donc vous dites pas ma petite dame.
Mon équipe et moi. Ouais.
Est-ce que vous dites des phrases, c'est ça? Alors ma petite dame, on vous met machin. Une moulée, voilà, une à l'ancienne.
Je voudrais un petit bâtard,
une petite miche.
Et a-t-elle de belles miches?
Ah oui, c'est à l'ancienne, voilà. Ça c'est ça. Vous avez de belles miches, bravo. Alors ce matin, chaque jour, on va essayer, on prend un quotidien, on essaie d'en tirer le meilleur. Ce matin, on a tous feuilleté le Parisien aujourd'hui. Marie Misset, vous êtes très intriguée parce que sur le génie démocratique ce matin, puisqu'on a demandé, ils ont une rubrique qui est formidable qui s'appelle Voix Express, où ils demandent à des gens soi-disant triés dans la rue ce qu'ils pensent d'un sujet. Là, quand même, le sujet est pointu.
Le sujet, c'est l'État doit-il nationaliser les chantiers navals? Et les gens ont des avis super précis. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, Atman, tu as un avis sur la question doit-on nationaliser? Voilà, moi, j'arrive même pas à la poser la question.
Moi, j'ai pas d'avis. Donc,
j'aimerais bien que vous demandiez aux gens, excusez-moi, à votre avis, un mec dans la rue, pensez-vous qu'il fallait baisser de 4,5% l'imposition sur les CSG+? Oui, vraiment, il faut le faire.
Par exemple, Céline Aldet, elle dit oui, j'en suis convaincue. Il y a de la conviction derrière.
Elle a un rapport avec ce métier? Pas du tout. Non, elle marchait dans la rue, elle est cadre à Vernouillet.
Elle est étudiante.
Ah non, la 4,5, c'est Sophie Nul qui est, elle est partagée. Il y a un autre type qui dit oui, il faut protéger les emplois. Non, il n'en est pas question, c'est bien.
Ils sont très. Oui, voilà,
il y a aussi dans le panel. Il y a le tennisman Tsonga qui ouvre une boutique au puce. Et alors, il dit qu'il faut, c'est pour vendre les œuvres d'art de ses amis sportifs. Et il y a l'un d'eux qui est un footballeur que je ne connais pas, qui dit c'est vrai qu'il y avait très peu de place aujourd'hui dans les galeries pour les œuvres d'art des sportifs. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte de ces problèmes-là. Méné, qu'est-ce que vous avez vu dans le Parisien ce matin?
Moi, j'ai vu un article sur les Parisiens ont-ils une vie intime libérée? Avec des témoignages.
Ça, vous l'avez vu, ça.
Oui,
Poutine, il s'en fout. Trump, il ne sait pas qui c'est. Alors, dès qu'il y a homosexuel, et ça tilt, et on y va, et on prend sa troisième douche de la journée. Alors, allez-y.
Alors, non, mais c'est pas ça. C'est simplement que j'ai l'impression que c'est des faux témoignages. Bah, ça, parce qu'il y a alors, Marie, 29 ans, et qui dit voilà, « Pour le fun, ça m'est arrivé de faire l'amour dans le train ou dans un avion. Ouais, » bien sûr. « J'ai aussi des rapports sexuels avec des filles en fin de soirée. » Ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne. Alors, il y a Didier, 50 ans, qui est gardien d'immeuble. Donc, lui, il a eu une vingtaine de partenaires. N'importe quoi. Il fait l'amour avec des gens sans connaître leur prénom. Et il ajoute allez. Alors, pas besoin de connaître le prénom pour avoir un vrai échange.
Allez, tu vas chez nous.
Non.
Non, mais arrêtez. Bon, allez. Je n'ai rien appris. Je suis désolé, ça ne m'a rien amené.
Eh ben oui, mais il y a un sexologue quand même à la fin qui dit beaucoup de gens ont des relations extra-conjugales avec l'accord de leur partenaire. Je te jure, je vais.
Qui a appris quelque chose?
Bah, si,
c'est, ah, si, c'est comme
40 ans de journalisme au service de la vérité.
Moi, j'ai été assez surprise par David Simard, ce sexologue qui est à la tête de Michael Youn.
En plus.
Bon, merci beaucoup. À tout de suite avec encore là, plus de sens.
On est vraiment dans l'investigation, là.
On est maintenant avec Arnaud Muller. C'est vous dire qu'ici, ça se succède. C'est vraiment une sorte de carrefour d'idées, de contradictions. Bonjour Arnaud.
Bonjour Edouard, ça va ?
Arnaud, votre émission, c'est le 13h du dimanche. Le 13h.
13h à 14h tous les dimanches.
Ça vient de commencer, c'est très récent. Ah vous avez quelques numéros.
Quelques années.
Mais oui, mais c'est rien pour moi. Vous savez,
ça s'accélère. L'actualité politique s'accélère, donc on est là.
Bon, Michel Drucker et moi, on en a vu passer des jeunes comme vous qui en voulaient et puis qui ont fait des belles carrières.
Merci beaucoup. Merci Arnaud, pour ces coups de pouce à la jeunesse, Edouard.
C'est important.
Je sais que
c'est très beau un jeune. C'est beau un jeune qui marche comme ça sur la jeter. Arnaud,
vous la trouvez bien cette émission?
Je la trouve remarquable, je l'écoute en podcast.
D'accord,
je
okay, c'est
pas,
ce qu'on m'a dit.
Parce qu'à 13h le dimanche, je ne suis pas levé. Je suis ou à la sortie de la messe, on allait chercher le Saint-Honoré à la pâtisserie en face de l'église. Ou voilà.
Bon, en tout cas, c'est gentil de m'inviter pour venir parler un peu.
Non, je vous remercie d'être venu, j'ai adoré ce moment et je vous souhaite de venir bientôt et à bientôt. Arnaud, c'est la politique et cette fois-ci, vous allez parler du Front National et des banques.
Exactement.
Il y a un moment, on a suspecté le Front National d'être financé par des banques russes.
Ouais, on va parler de tout ça, effectivement, parce que figure-toi que le Front National a un nouvel ennemi, hein, ce ne sont plus les bobos socialo-communistes, ce sont les banques françaises particulièrement, parce que donc Marine Le Pen, elle est sortie de son silence médiatique, c'était mardi sur BFM TV, pour reprendre une de ses recettes électorales préférées, celle de la victimisation. Et cette fois-ci, ce sont les banques qui en ont pris pour leur garde, effectivement, elles seraient devenues les pires ennemis. Donc Marine Le Pen a déclaré qu'elle n'arrivait pas à obtenir de prêts de la part de banques françaises, et que leur refus était idéologique, que sa formation était ostracisées. Bref, que les banques, je cite, étaient devenues des combattantes du Front National. Alors, il faut expliquer, Edouard, que Marine Le Pen a besoin d'argent pour financer sa campagne, que le parti, malgré les cotisations de ses adhérents, ils sont 85 000 quand même, et de ses élus, ils sont plus nombreux, ils sont 1900 depuis 2015. Eh bien, il n'y a pas assez d'argent au Front National. Il manque 6 millions d'euros pour organiser, tu sais, ces grands messes, ces grands meetings, c'est un peu... plus tu fais de gros meetings, plus tu es crédible aujourd'hui hein, dans cette société du spectacle. Et le parti cherche, il doit emprunter. Et les banques disent non, visiblement. Alors, au QG de campagne, cette excellente émission le dimanche à 13h que tu suis, on a appelé les banques et certaines n'ont pas voulu commenter cette affaire, cette charge de Marine Le Pen contre elle. Mais d'autres ont recadré la présidente du Front National. C'est le cas de la Société Générale qui finançait le FN jusqu'en 2012. Mais maintenant, c'est fini. Écoute.
C'est nouveau cette position ou ça date de quand? C'est depuis l'affaire Big Malion en gros quand même?
Ça date depuis 2012.
Ouais, donc l'affaire Big Malion, enfin les comptes de campagne invalidés de Nicolas Sarkozy.
Je vous laisse faire le rapprochement, mais
oui. Non, ça coïncide en tout cas.
Voilà.
Donc, Edouard, t'as compris, hein, la Société Générale ne finance plus aucune formation politique. Il n'y a pas de spécificité à l'égard du Front National.
Quand on prête de l'argent à un parti politique, on espère que c'est à partir d'un certain nombre d'élus, l'État te rembourse tes frais de campagne et là, tu rembourses ta banque.
Exactement. Et c'est ça le problème, parce qu'en fait, les partis ont besoin d'avancer de la trésorerie et l'État ensuite rembourse en fonction des résultats électoraux. Et c'est vrai que l'année 2012-2013 a été charnière dans ce domaine. Tous les gens que j'ai pu avoir, des trésoriers de campagne, tout ça, me disaient que c'est vrai qu'avant, c'était un peu open bar avec les banques. Et depuis peu, c'est beaucoup plus... Depuis 2012 et cette affaire Big Malion, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a aussi une petite affaire Big Malion à l'intérieur du Front National, qu'il faudrait peut-être rappeler aujourd'hui, au moment où Marine Le Pen se déchaîne un peu contre les banques. C'est ça date aussi de 2012 et cette affaire, elle concerne en fait des supposées surfacturations qui auraient été pratiquées par le Front National. Et les sommes en jeu sont certes moins importantes, mais le procédé est le même. En gros, je t'explique, le FN proposait à chacun de ses candidats aux législatives en 2012 un kit de campagne avec tract et affiche à un prix de 16 000 euros, c'est pas mal.
Ah oui, l'affiche doit être très belle.
Voilà. Et pour avancer ses frais, les candidats pouvaient emprunter de l'argent à un micro-parti, donc Jeanne, créé par des dirigeants du FN, avec des intérêts de
6,5%. Jeanne, au secours.
Et dis-moi, alors, attends, oui, mais alors...
Et moi, donc, ça, c'est oui. totalement illégal, et c'est très embêtant, parce que dans la mesure où, au bout du compte, la somme que tu empruntes auprès des banques, elle est remboursée par qui?
Elle est remboursée, la somme que tu empruntes, par l'État.
Par l'État, au bout du compte, si le Front National réalise des scores.
Donc il faut espérer qu'il fasse des gros scores.
C'est au bout de 5%.
Alors justement, les emprunts du Front National, à un moment on parlait des banques russes, à un moment on a parlé de son père, il paraît qu'elle est allée demander 6 millions à Jean-Marie Le Pen, ce que moi je n'aurais pas osé faire. Moi je n'aurais pas été voir Jean-Marie Le Pen.
Alors oui, c'est le micro-parti de Jean-Marie Le Pen en fait, c'est une structure ad hoc du Front National.
Alors qui finance?
Mais c'est vrai que le FN ne se cache plus d'aller se financer à l'étranger. Comme en 2014, lorsque le parti s'était justifié d'avoir souscrit un prêt de 9 millions d'euros auprès d'une banque russe réputée proche du Kremlin, c'est la First Czech Russian Bank. Vous allez me demander comment ce prêt a été obtenu.
Non,
ça vous intéresse,
j'imagine. C'est très compliqué. C'est secret, vous voulez dire que c'est secret, c'est pour
c'est
ça.
C'est secret, mais c'est assumé par le Front National. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé.
C'est pas secret, c'est discret.
C'est vrai, exactement, c'est discret. Donc, avril 2015, des conversations privées, des SMS de responsables du Kremlin ont été piratés par les Anonymous International et ils ont été publiés, figure-toi. Et en gros, on a appris qu'en échange d'un soutien de Marine Le Pen et de son parti à l'annexion de la Crimée par les Russes en mars 2014, ce soutien a été public, hein, la candidate devait être remerciée. Comme je sais que tu aimes jouer la comédie, je crois, je te propose de reproduire pour nos
alors
auditeurs...
Alors tu m'as donné un texte, tu cherches à prendre le pouvoir dans cette émission.
Pas du tout.
J'ai compris que tu avais les dents longues. Alors attends, Atmen Kelly, vous allez m'interpréter ça parce que je comprends absolument rien.
Pour bien expliquer, Atmen, c'est une conversation SMS donc, qui a été hackée entre un haut responsable de la présidence russe et un ex-député russe pro-Poutine à propos, donc il parle de Marine Le Pen.
Et quel est le rôle pour moi, Atmen?
Alors, le premier échange a lieu, attends, le 10 mars 2014. Donc, le premier s'appelle Timur Prokhorpenko. Le second s'appelle Kostia, c'est un député pro-Poutine. Et le premier, c'est un haut responsable du Kremlin. Donc, le premier demande s'il peut faire venir Marine Le Pen en Crimée comme observatrice du référendum qui doit se tenir 6 jours plus tard. Donc, on est le 10 mars 2014.
Mon chéri,
je te propose de jouer le haut responsable du Kremlin.
Peut-être qu'il faut lui donner la situation, il faut donner le personnage. Atmen, tu vois un rôle à accent, tu vois
un peu russe.
Tu es le haut dirigeant du Kremlin et tu dis ça.
On a extrêmement besoin, j'ai dit à mon chef, que tu étais en contact avec elle.
Ça, c'est donc Prokhorpenko.
Ah oui, on l'a reconnu.
Et le député pro-Poutine lui répond, ça c'est toi Edouard, si tu veux bien.
Oui, j'essaie de savoir demain, répond Kostia.
Alors, ensuite, deuxième échange, le 17 mars, nouvel échange de textos entre les deux hommes. À 15h49, vas-y.
Marine Le Pen a officiellement reconnu les résultats du référendum en Crimée.
Elle n'a pas trahi nos attentes, c'est formidable.
Il faudra d'une manière ou d'une autre remercier les Français, c'est important.
Oui, super.
Très bien,
j'ai tout compris.
Je ne sais pas ce que Michel Leb est venu faire là à un moment. Il y avait un accent. Oui, enfin Thomas Bougard.
Oui, bonjour. Non, j'ai l'impression qu'il y a un scoop dans ce que vient de nous dire Arnaud dans cette présentation, donc on n'a pas tout compris. Il va falloir écouter dimanche à 13h.
C'est
exactement.
Il faut écouter.
Ici, ça n'est bien sûr.
On va bien sûr revenir sur l'histoire du Front National, de l'argent, des banques.
13h, QG de campagne sur Radio Nova.
On a des offres incroyables de Marine Le Pen. Enfin, on vit dans les QG de campagne.
Elle sera peut-être là, on ne sait pas, à porte à boire.
Mieux joué, ça.
Merci, cher Arnaud.
Ça sera mieux joué.
Merci.
Merci à toi.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il fait une chaleur dans cette émission.
Il est 7h28. Tous les matins, il part de chez lui alors que nous imaginions même pas que l'extérieur existait encore. Lui fait de cet extérieur son intérieur, mais un intérieur imaginaire. Il part avec un micro, il le tend aux gens, il le tend à tout ce qui ressemble à quelqu'un. Il fait ouvrir les bouches, il fait ouvrir les âmes et les cœurs. Jack souvent, la voix de ceux qui n'en ont pas.
Jack. Les risottos. Oui, je suis en train de faire des risottos.
Des risottos pour combien de personnes
là, c'est pour 24 personnes. Non, 12 et 12. Oui, pour 24 personnes.
12 et 12, 24.
Oui, oui.
C'est super.
Jack, on dérange pas?
Bah non, pas tout à fait, ça va. Là, on était en train de préparer un risotto avec Fatima qui me disait qu'elle préparait les oignons deux ou trois jours à l'avance. Donc elle pleure pendant toute une journée, puis ensuite les oignons sont prêts. C'est ça, Fatima?
Oui, c'est ça, oui. C'est les deux jours.
Mais bonjour Fatima et Jack, mais vous faites des risottos à 7h29 le matin? Qu'est-ce que c'est que ce restaurant?
Oui, c'est le restaurant, c'est l'atelier d'Arosa plutôt.
C'est un atelier.
Et, l'atelier d'Arosa, dans le 11e. Voilà, et comment dire, et je cuisine pour les deux épiceries cantines. Il y en a une à Vendôme et une à Saint-Germain.
Et c'est préparé si tôt le matin alors?
Oui, on prépare une partie la veille et le reste le lendemain matin.
Jack, à quoi ça ressemble cet atelier cuisine?
Ça bosse, hein. on est entouré de pas mal de pâtes en fait, c'est très italien. Et puis alors ce qui était drôle tout à l'heure, c'était qu'on était en train, il y a une livraison qui arrivait, ça livre un peu tous les quarts d'heure là. Et il y avait une livraison. Et ils ont livré du beurre et du lait. Et alors, il y avait, je ne sais pas, peut-être 30, 40, 50 plaquettes de beurre. Et on avait l'impression de ranger des lingots d'or dans la chambre froide. C'était étonnant.
Oh, tout amuse. T'es un gamin, t'es un gosse, t'es magnifique, mon Jack.
Un gamin.
Ah, t'es un petit gamin de Paname. Tu pousses une porte, il y a un risotto. Il y a du beurre qui arrive, c'est des lingots. Devant ton sapin de Noël, il y a une pomme. Tu crois que c'est un pain dans la gueule. Jack, est-ce qu'on vous a mis à contribution, Jack? Vous avez mis la main dans la pâte?
Bah, pas encore. On veut pas parce que j'arrive de l'extérieur. On sait pas trop qui je suis encore. Donc, vaut mieux pas. Il y a un monsieur qui fait la soupe là-bas.
Il y a un monsieur qui. Ils sont combien là? Tout le monde est déclaré?
Je sais pas. Je vais faire un petit contrôle. Ah, j'ai dit contrôle, ça a commencé à flipper.
Mais bien sûr, c'est ça. Là. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai un resto à Paris, j'ai deux pâtisses en cuisine. Si je les déclare, je mets la clé sous la porte. Alors, allez leur dire aux socialo-communistes avec Carloise. Je l'ai entendu, ce discours-là, vous savez.
Non, ne rentrez pas dans la chambre froide. Non, monsieur, c'est pas la peine.
Bon, Jack, on vous laisse aider Fatima, parce que là le moment est crucial, c'est l'instant Thierry Paret, ici.
Oui.
À tout à l'heure. Merci, à Fatima. Merci. Thierry, il est 7h31.
Précisément. Excédé.
Non, c'est dommage.
C'est dommage. Ouais.
C'est dommage parce
que c'est un coup bas.
Non, c'est pas bien. C'est pas vous, ça.
C'est pas nous.
Thierry,
c'est vrai, c'est pas moi. Mais je pensais que t'allais poser une question, en fait. J'étais dans un autre délire.
Je suis dans l'affirmation ce matin. Beaucoup.
Excédé par ce qu'elles estiment être des idées fausses et des stéréotypes véhiculés par les représentants politiques, pas moins de 51 associations de lutte contre la pauvreté et le mal logement se sont unies hier pour interpeller ensemble les candidats à la présidentielle et lancer leur autre campagne, entre guillemets. Toutes ces organisations se disent prêtes à organiser des mobilisations devant les QG de campagne. L'autre campagne, elle commencera réellement à la fin du mois de janvier. Elle se fera aussi sur Internet. Il s'agit donc de démonter les idées fausses, telles celles relayées par Laurent Wauquiez, par exemple, qui dit « Ceux qui touchent le SMIC gagnent parfois moins que ceux qui touchent le RSA », ce qui est évidemment totalement faux. C'est l'un des derniers procès consécutifs aux manifestations de l'an passé contre la loi travail. Valentin Frex, jeune homme qui prépare son CAPES de philosophie, va comparaître ce matin en correctionnel à Paris. Le 5 juillet dernier, il s'était interposé entre une documentariste et les CRS lors d'une manifestation aux abords de l'Assemblée nationale contre l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls. D'après l'accusation, il aurait arraché son insigne à un CRS. 8 mois avec sursis.
Vraiment, la grande info de Thierry Paret ce matin, c'est qu'il y a une nana qui va peut-être prendre 3 mois avec sursis. Parce qu'on dit non, allons, le monde tourne.
Alors c'est un homme. 8 mois avec sursis requis contre un agriculteur. T'as vu comment
on a lâché
en place.
Je l'aurai un jour, je l'aurai.
8 mois avec sursis requis contre un agriculteur jugé pour avoir aidé des migrants. Cédric Héroux est poursuivi pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Il a revendiqué devant le tribunal hier des actes politiques. Les Haïtiens n'en ont peut-être pas encore terminé avec leur présidentielle qui a commencé en 95 quand même. Alors que la victoire de Jovenel Moïse a été officiellement actée par la commission électorale, ses principaux concurrents continuent à dénoncer un coup d'état électoral et ils refusent de reconnaître sa victoire. Accusé d'avoir abattu un assaillant palestinien d'une balle dans la tête à Hébron alors que ce dernier était à terre et sans armes, le soldat israélien Elor Azaria a été reconnu coupable d'homicide par la cour militaire israélienne. Il encourt 20 ans de prison. Il sera définitivement fixé sur son sort dans quelques semaines. Ce procès exceptionnel divise profondément les Israéliens. Donald Trump qui fait appel à Henry Kissinger, âgé de 93 ans, l'ancien secrétaire d'État de Richard Nixon, reprend du service. Celui qui avait notamment contribué à normaliser les relations avec la Chine de Mao s'est proposé comme médiateur officieux pour aider Donald Trump dans ses relations avec la Chine mais aussi la Russie. Un train de banlieue a déraillé hier matin dans le quartier new-yorkais de Brooklyn. Il y a eu une centaine de blessés, c'est miraculeux. Le fait qu'il n'y ait pas de mort, bien sûr. Ça s'est passé en pleine heure de pointe. Le train roulait vraisemblablement beaucoup trop vite et il s'est écrasé contre les butoirs de l'Atlantique Terminal. mal. Sachez pour finir qu'une chaîne de télévision saoudienne s'est excusée hier pour la diffusion dans le royaume ultra-conservateur d'une scène d'un programme de télé-réalité qualifié de pornographique. La scène concernée montre des hommes qui dansent et à un moment donné, c'est assez furtif mais quand même, il y a un des hommes qui en prend un autre par les hanches. Eh oui, mais à un moment donné, il faut savoir, tu vois, c'est pas possible, on peut pas faire n'importe quoi.
Mais ne tombez pas dans le piège de Thierry Paré.
Merci.
C'est fini, Thierry ?
Oui, c'est terminé.
En gros, je ne suis pas. Il y a un homme en colère.
Il n'est pas content.
Il ne s'est rien passé en sport.
Oui. Si, il y a un homme de 105 ans qui a battu le record de l'heure à vélo. Voilà.
Non, okay. Mais ça, c'est anecdotique, là. Moi, je veux du vrai, je veux du but.
Ok, alors Tottenham a battu Chelsea 2-0.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu des températures ? Il n'y a pas une météo aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort de chez soi, il ne fait pas de température.
Si, on peut dire que c'est plutôt clément comme temps aujourd'hui.
Clément. Clément. Alors, monsieur, il trouve ça clément. Le journaliste d'aujourd'hui, c'est clément. Voilà. Alors ça c'est inouï.
Oh oui, c'est
ah non, mais moi,
ça fait des mots qu'on n'a pas entendu.
Mais, moi, j'ai 30 ans aujourd'hui. Ouais. Et bien, j'en ai vécu des choses dans ma vie. Mais quelqu'un qui dit comment la météo, c'est clément. Imaginez, Madame Laborde, c'est quand même quelqu'un qui se retire après 40 ans de télévision, qui a fait cette météo. Elle n'a jamais dit en 40 ans de météo,
elle n'a jamais dit le mot clément. Jamais.
J'ai mal à ma France.
Moi aussi.
Si vous vous êtes engueulé hier soir et vous avez envie de vous réconcilier, tout de suite, un petit cadeau par Charlène.
C'est tout à fait indigne d'une jeune fille du monde. Quant à vous, Berlioz, vous devriez avoir honte de vous. Votre conduite n'est pas d'un vrai gentleman.
Ben, c'est elle qui a commencé.
J'ai fait une sacrée boulette. Je m'en mords encore les doigts.
Tu m'as pourri mon groove.
Je l'ai pas fait exprès.
C'est pas demain, ça me reprendra.
Ça a fait boum là-dedans.
Je suis affreusement maladroite.
À la boulette.
Nous sommes moches.
Je me suis laissé emporter tout à l'heure.
Ah, ce qu'on est moche.
Je l'ai pas fait exprès.
J'ai sans doute été un peu brusque.
Ça a fait boum là-dedans.
Un peu nerveux, lunatique au départ, mais...
Nous avons été sottes, toutes les deux.
Bah, petit bisou quand même.
Voilà, tout simplement.
7h-9h plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Tous les jeudis à 7h41, depuis aujourd'hui, il y a un grand plateau gastronomie, cuisine. Aujourd'hui, nous sommes avec Mina Sundiram. Bonjour.
Bonjour.
Mina Sundiram, vous êtes chroniqueuse à l'émission Très Très Bon le dimanche sur Paris Première. Et vous êtes aussi, ça je viens de l'apprendre, si vous dites que j'ai bien préparé mon émission, vous occupez des pages gastronomie de l'Express.
Oui, et voyage.
Est-ce que c'est-à-dire, par exemple, vous arrivez dans un restaurant, on vous dit, voilà, vous dînez très bien, on vous dit, tenez mademoiselle l'addition, et là vous dites, coco. L'Express, Paris Première, non ? Comment ça se passe ?
Non, justement, c'est ce qui fait notre déontologie. On paie, on règle toutes nos additions.
Il n'y a plus que les critiques gastronomiques qui paient leurs additions. Maintenant, les gens partent en courant, les gens normaux.
C'est d'ailleurs ce qui coûte le plus cher dans l'émission.
C'est ça.
Ce sont les additions.
Vous êtes l'addition.
On flambe.
Mais en même temps, vous, à la télévision, vous êtes spécialisée en street food, donc l'addition, c'est plus raisonnable.
Oui, elle est minime, mais bon, on essaie de rester dans des fourchettes assez raisonnables, mais parfois, on s'envole un peu.
Tout de suite le mot fourchette, tout de suite un jeu de mots, on est au top. Bonjour messieurs Gauthier et Jubert, vous êtes Gabriel et Romain de vos prénoms. Vous venez pour ce magnifique magazine qui s'appelle Jésus, la grande aventure de la nourriture. Nous allons donc évoquer ces nouvelles façons de parler tant en télévision, en radio qu'en journal de la gastronomie en France. Je trouve que l'intitulé suffit, j'ai pas envie de mettre de contenu dedans, non ?
C'est pas tant un journal de gastronomie qu'un journal qui raconte les histoires, des histoires individuelles. On n'a pas voulu parler... De bouffe, en fait, ça nous intéresse assez peu. Pas montrer de recettes, etc. J'avais suffisamment de journaux là-dessus. Puis ça nous paraît un petit peu bourgeois, comme ça, ça nous intéresse pas beaucoup. Par contre, raconter des histoires de rapports de gens à la bouffe, ça nous intéresse. On prenait une neurone et parlait de Chirac, son rapport au pouvoir. Enfin, c'est cet ogre qui mange le pouvoir comme il mange...
J'avais croisé une fois, après le dessert, il reprenait du pot-au-feu.
Absolument, voilà. Et puis, dans le deuxième numéro, on a fait un spécial Afrique, on a rendu hommage à Jean-François Bizot, l'homme qui voulait manger l'Afrique.
Alors, à propos de politique, donc, j'avais oublié, Gabriel Gauthier, je vous ai connu il y a des années, que vous aviez ce phrasé quasi rocardien qui vous permet d'avaler deux, trois mots qui ne vous plaisent pas de passer directement quatrième. là, il y a une très, très belle carte qui est assez à la Bizot, d'ailleurs, qui mêle la politique et les poids. Alors, ça va du plus maigre au plus gros, de la droite à la gauche. Alors, vous avez classé les familles politiques suivant leur poids et leur rapport à la nourriture. Commentons un petit peu cette carte ensemble, Romain. Donc,
On a les véganes gourmandes, là. Emmanuel Cosse et Cécile Duflot.
Alors là, on est sur la gauche.
Sur la gauche.
Alors, par exemple, exemple, sur les gros de droite, on a qui alors? La famille, famille poids lourd de la droite, ouais. Gérard Larcher, Raffarin, ouais. Gaudin. Est-ce que c'est juste leur poids ou est-ce que c'est leur rapport à l'alimentation? Parce que vous savez, parfois, le poids ne vient pas que de l'alimentation. Atman qui souffre d'aérophagie. Non, pas du tout. Je vous prie de m'excuser.
Ma femme m'écoute. Merci.
Donc, il y a la famille, soupe à la grimace, vous les appelez. Ouais. Ce sont des gens que vous n'imaginez pas en train de manger. Placé, Delanoë, Mélenchon.
En fait, c'est le résultat d'un délire d'un après-déjeuner arrosé. Et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne classerait pas les familles un peu. Et on a fait des ponts entre les deux rives. On a fait des ponts entre la gauche et la droite. Vous avez par exemple la famille des hommes au fourneau avec Pécresse, NKM et Hidalgo. Voilà.
Oui, donc c'est des gens qui vous évoquent ça plutôt.
Absolument.
Sont des évocations,
c'est une évocation.
Atman, vous avez aimé Jésus, vous l'avez lu.
Moi j'ai lu sur un article sur Bob de Tunis, voilà, qui habite derrière chez moi, enfin qui travaille derrière chez moi dans le quartier des Folies Bergères. Où il a l'air complètement...
Sur la cuisine juive tunisienne à Paris.
Sur la cuisine juive tunisienne, sur la chouchouka, la loubia qu'on mange le midi, comme à côté à la boule rouge.
Oui, voilà, absolument.
Et c'est magnifique. Et à la fin de votre article, il y a cette histoire que je vais raconter, parce que je l'adore, cette histoire du mari juif qui rentre chez lui, qui voit sa femme prendre une grande casserole et mettre de l'huile et la faire chauffer. Et le mari lui demande, mais qu'est-ce que tu fais chérie? Je ne sais pas encore. Voilà. Et moi,
il y a déjà
de l'huile. Et voilà,
bah, quand on sort de chez Bob de Tunis, il faut jeter tous ses habits.
Il y a des restaurants, il faut jeter ses habits, ensuite en retirer ses cheveux et parfois retirer sa peau aussi. On se retrouve tout de suite. Nous parlons nourriture, rapports humains à travers la nourriture ce matin avec Mina Sundiram de Très Très Bon, l'émission de Paris Première, et avec Gabriel Gauthier et Romain Joubert de Jésus Magazine. Alors il y a un portrait du fameux Jean-Noël Guérini, hein, qui est l'ancien président des socialistes des Bouches-du-Rhône. Gabriel Gauthier, il y a un rapport un peu de pouvoir à travers la nourriture, une façon de manger le premier, de servir. Il en abusait un peu, Jean-Noël Guérini.
Oui, c'est un trait qui est propre à tous les politiques, c'est d'incarner le pouvoir à travers de ce qu'on mange. C'était déjà le cas de Mitterrand, hein, qui a révélé sa vraie personnalité de droite dans sa façon comme ça assez égoïste. Tout le monde a en tête cette anecdote, probablement fausse d'ailleurs, des ortolans. Ou au contraire de Chirac, qui révélait peut-être une certaine personnalité.
C'est quoi l'anecdote des ortolans?
C'était ses derniers repas, et là, voilà, sous la serviette, où il croit qu'il y a des ortolans qui, soi-disant, étaient son dernier repas. Avant sa mort, plein de gens ont dit que c'était faux, mais c'était...
Alors, c'est parce que c'est interdit de manger des ortolans, c'est donc un truc...
Alors, la serviette sur la tête, c'est la consécration du plaisir égoïste.
Le plaisir solitaire. Oui, on se cache pour manger des ortolans.
Ça fait penser que la bouffe, dans ce cas-là, est vraiment de droite. Elle est égoïste.
Non, mais enfin, je ne sais pas si l'égoïsme est de droite ou de gauche, mais enfin, il y a plein de rapports de pouvoir liés à la nourriture. Il y a ce film formidable où il y a Danny DeVito qui joue une star hollywoodienne. Il a donné rendez-vous à 10 scénaristes. Il arrive une heure en retard. Il dit, excusez-moi, je suis en retard, j'ai très peu de temps, je vais commander pour tout le monde. Il dit, il était à Los Angeles. Il dit, une omelette, s'il vous plaît.
Une omelette bio
sans, juste les blancs, je ne prends pas les jaunes et sans sel. Il leur parle.
Il mange tout seul.
J'ai pas le temps. Il part et c'est eux qui sont obligés de manger. Il l'a choisi pour tout le monde.
Et de payer l'addition aussi, je crois. Derrière.
Mina Sundiram, vous êtes spécialisée en nourriture de rue, en street
vous
food,
dire en
finger food
aussi.
Finger food, est-ce que c'est de la nourriture quoi, qui se rapporte au bureau? C'est de la nourriture qu'on mange sur place, qu'on mange avec les doigts?
C'est de la nourriture qu'on mange sur place, dans la rue, au bureau, à la maison, dans les transports en commun, partout.
C'est de la nourriture, on ne s'assoit pas pour la manger?
Si, on s'assoit. Moi, je suis une adepte du manger debout.
D'accord, mais c'est
ce que je fais dans l'émission.
Parce que vous n'êtes pas diététicienne, je crois que tout le monde dit que c'est une catastrophe de manger debout.
Oui, mais bon, si on écoute tous les diététiciens, dans ce cas, on ne mange plus rien.
Oui, mais moi, j'écoute tout le monde. Après, je fais autre chose, mais on écoute d'abord. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? C'est une tendance qui évolue beaucoup. Est-ce que vous allez aussi dans les food trucks beaucoup?
Oui, alors j'ai beaucoup dans les food trucks. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les food trucks, c'est très à la mode. Mais finalement, on n'en croise pas tant à Paris.
Parce qu'on n'a pas le droit, en fait, de se garer maintenant. Les restaurants empêchent les camions de nourriture de se garer devant les bureaux.
Exactement, il faut des emplacements dédiés. La mairie, Anne Hidalgo, avait annoncé à peu près 60 ouvertures d'emplacements comme ça en Paris, mais on n'en a jamais vu la couleur. Donc aujourd'hui, moi, je vois deux food trucks qui sillonnent les rues de Paris.
Et dans les autres villes, vous êtes baladé, il y a des food trucks dans les régions?
Il y a des food trucks, mais c'est en périphérie, c'est compliqué. Ou sinon, ce sont des food trucks qui font des événements privés. C'est très compliqué.
Alors moi, j'étais à Marseille longtemps, il n'y a que des camions à pizza, quasiment.
Voilà.
Est-ce qu'il y a un peu autre chose qui arrive?
Le camion à pizza, c'est l'ancêtre du food truck. Il y a d'autres choses qui arrivent, en fait. On peut tout faire, des camions de dim sum, ces raviolis asiatiques, de burgers, de viande, on a un peu tout.
À Lille, il y a beaucoup de food trucks qui font de la saucisse, des frites.
Oui, il y a des spécialités locales. Messieurs dans Jésus, vous êtes penchés sur ce phénomène, vous avez suivi des camions, des aventures dans les camions, avec le petit lit à l'arrière.
On connaît bien parce qu'un de nos collaborateurs est Yannick Samo, que vous connaissez probablement.
Il y a des accointants, je n'aime pas ça. Moi, je veux qu'il y ait collusion, je veux que ça se batte, que ça s'empointe, que dit salaud.
Il y a des petits réseaux, il y a de la franc-maçonnerie, de la saucisse, tout le monde le sait. Et là. Mais nous, on s'interdit de parler de gastronomie au sens premier degré. Il y a des gens qui le font très bien. Nous, on est un petit peu ailleurs. Par contre, le camion pizza à Marseille, on a passé une journée avec un camion pizza à Marseille. Parce que ce qui nous intéressait, c'est qu'on va raconter dans notre prochain numéro. Donc, ce qui nous intéressait, justement, c'est parce que c'est une circulation très, très précise. On parlait de mafia. C'est un petit peu ça, les emplacements des camions pizza à Marseille. Bien avant la mode des food trucks à Paris, c'est quelque chose.
Il faut glisser son petit billet.
On se bat très fort.
C'est grave ce que vous dites. C'est grave, vous dites qu'il y aurait donc des pots de vin. Il y a un très joli portrait dans Jésus, là, Romain, de quelqu'un qui livre, Deliveroo, qui livre la nourriture à domicile à vélo. Ça, c'est un nouveau petit métier.
Ouais, c'est un nouveau petit métier difficile. Il y a une femme qui gravit les collines parisiennes, qui est espagnole, qui a 51 ans, qui travaille dans un magasin de bijoux et qui s'est dit qu'il ne marchait pas à Barcelone et qui s'est dit qu'elle allait chercher fortune en France et qui est venue à Paris et qui fait ce métier difficile de livraison de plats en sauce.
Oui, parce que c'est très délirant, parce que c'est vraiment c'est à la seconde. Il faut être là, il faut être dans le bon endroit. Dès que ça sonne sur l'appli Deliveroo, elle doit foncer au restaurant. Ouais. Donc c'est comme les taxis en maraude, elle doit être dans le bon coin à chaque fois.
Exactement.
Mina, vous avez vu des personnages dans le monde du food truck, de la nourriture de rue qui vous ont touché? Il y a des aventures humaines étonnantes, un mec qui s'est reconverti, qui a ouvert son camion, qui s'est mis à faire des saucisses au coin d'une rue.
Des reconversions, je ne sais pas. Je sais que pour ouvrir son food truck, c'est compliqué. La première, c'était Christine Frédéric à Paris pour le burger. Je pense que vous connaissez.
Il s'appelle comment ?
Le camion qui fume.
Le camion qui fume. Alors, on ira trouver ça. Si on voit de la fumée, un camion qui fume.
Voilà. Maintenant,
c'est pas le moteur.
Elle a ouvert son restaurant dur sur les grands boulevards. Voilà, elle s'est vraiment. Elle a démocratisé le concept du burger gourmet. Mais à la base, c'était son camion. Je me souviens, on faisait la queue, mais pendant une heure et demie. Juste pour passer commande. Ensuite, il y avait une demi-heure d'attente.
Oui, mais tout le monde se met à la viande, on ne sait pas pourquoi. Dans les périodes végétariennes, tout le monde ouvre des burgers. Je dois rendre l'antenne parce que c'est une autre émission qui va commencer. Je vous trouve tous formidables. Le magazine Jésus, ça se trouve où alors
dans tous les bons
kiosques. Dans les bons kiosques, j'aime bien cette expression. Dans tous les bons kiosques.
À 4,90 €.
On est vraiment gagnant, je crois que c'est vraiment un tarif gagnant. Des aventures, des personnages et des aventures humaines derrière la nourriture. Mina, votre prochaine émission, vous allez parler de quoi sur Paris Première? À midi.
Alors, c'est une boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Ten Bells Bread, qui est pas loin du studio de Nova, d'ailleurs.
C'est où ?
Qui fait d'excellents pains.
Voilà, alors l'information est là, on n'a pas l'adresse. Le nom est approximatif, les horaires aussi, mais c'est le charme de tout ça.
Mais foncez,
merci.
Excellents pains.
Très bien, on ne sait pas où c'est, mais on ira. Salut.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Yes, my suit is tight and the light shines bright on me. It's Friday night in the club, celebrating that I'm me. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find a light. I don't know where I left my keys. Was it with you or were you with me? Saw you in the corner, damn. I saw you twice. It's the liquor that's watching you straight from my eyes.
T'es bien assis, Jules, là? Regarde si t'arrives à bien parler comme ça. Voilà, non, c'est ton cahier de poésie, ça?
Oui.
Très bien. Ah oui, il y a des dessins. Parfait. Ben écoute, on est prêt.
Un enfant, un poème.
Je ne connais pas du tout Christian Lamblin qui a écrit le poème que tu vas nous dire. Ta maîtresse t'en a parlé ou pas?
Non.
Tu crois que c'est quelqu'un qui est vivant encore?
Oui.
Mais il serait où alors? Chez lui à cette heure-là?
Peut-être.
Parce que les poètes, tu crois qu'ils se lèvent tôt?
Peut-être.
Non, peut-être qu'il est en prison. Peut-être qu'il est... Non? Peut-être qu'il a fait des bêtises.
À mon avis, non.
Non? Bon, bah alors ça s'appelle Les Cro-Magnons et on t'écoute avec plaisir. Alors.
Les Cro-Magnons, l'un derrière l'autre, nous marchons à la recherche des bisons. Nous lancerons les pierres qui tuent pour nourrir toute la tribu.
On nous appelle
préhistoriques, mais nous inventons la musique. Et dans nos grottes vénérées naissent les premiers artistes et l'humanité. Dans 100, dans 1000, dans 10 000 ans, dans le regard d'un enfant savant, nos animaux reprendront vie et de nouveau dans nos esprits, mammouths et bisons danseront grâce aux hommes de Cro-Magnon. Christian Lamblin.
Ben c'est superbe. Non, c'est toi qui tu as choisi le poème?
Oui.
Pourquoi tu l'as aimé spécialement?
Parce que ça parle un peu de l'humanité. Que c'est un des plus longs poèmes que j'ai pris. Et voilà.
Parce que tu t'intéresses au début de l'humanité?
Oui.
À l'école, c'est peut-être en dehors de l'école d'ailleurs, mais les grottes de Lascaux, vous avez parlé de ça, les peintures rupestres.
Oui.
Et parfois, tu t'es imaginé, toi, vivre à cette époque-là?
Non.
Tu aimerais vivre. Tu es content dans ton époque?
Oui.
Et quand tu seras grand, tu voudras vivre dans la nature, dans les grottes, ou tu voudras vivre où?
Dans la ville.
Dans quel genre de maison?
À la campagne.
Une ville à la campagne, c'est le rêve de tout le monde, ou la campagne à la ville. Et tu voudrais que ça ressemble à quoi, cette maison, si tu devais me la décrire?
Qu'il y ait un grand jardin, une piscine, et que la maison soit très grande.
Et on dormirait où? Dans la piscine, dans le jardin, dans quoi?
Dans la maison.
Et ta chambre, décris-moi comment ça serait alors?
Y aura un lit par terre, après il y aura des tiroirs et plein de livres.
Dans les tiroirs?
Oui, dans les tiroirs, il y aura plein de livres.
Quels livres, par exemple?
Je sais pas, des livres pour les grands.
D'accord. Avec des livres qui font peur ou des histoires d'amour, des histoires d'aventure, de corsaires?
Je crois que plutôt des histoires un peu normales.
Très bien. Bon, on va trouver un peu de normalité. Merci. Merci, mon cher ami. Très bonne journée à toi.
Bonne journée.
Radio Nova. Et voici Thierry Paret qui est resté un enfant. C'est vraiment les liaisons les plus faciles et les plus lamentables. C'est aussi un enfant puisqu'il a... C'est quoi votre t-shirt Thierry Paret aujourd'hui?
Oh, c'est un t-shirt d'une marque française qui n'existe plus, Breton Kanavich.
Tu l'aimes bien le t-shirt du journaliste Thierry Paret?
Oui.
Tu peux décrire ce qu'on voit?
Un monsieur avec de grandes moustaches qui prend du pain et il a un skateboard. Ouais. Et il a des lunettes.
C'est un peu n'importe quoi quand même. Oui, on est d'accord. D'accord, allez-y Thierry.
Selon une étude canadienne, les personnes qui habitent à proximité d'axes routiers très fréquentés auraient un risque accru de démence par rapport à celles qui en sont plus éloignées. Si vous habitez par exemple à 50 mètres d'une artère à forte circulation, eh bien votre risque de démence, selon cette étude, est supérieur de 7% aux personnes qui habitent, elles, au-delà de 300 mètres. Les symptômes de la démence, c'est par exemple Alzheimer. Une nouvelle...
Il est 8h01. Et 33 secondes, la deuxième information.
Une nouvelle épreuve pour la filière du foie gras dans le sud-ouest de la France. Le gouvernement vient de décider un abattage massif de 800 000 canards à partir d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de mettre fin à la propagation rapide de l'épidémie de grippe aviaire. C'est l'un des derniers procès consécutifs aux manifestations contre la loi travail l'an dernier. Valentin Frex va comparaître ce matin en correctionnel à Paris. Le 5 juillet dernier, il s'était interposé entre un documentariste, une plutôt, et des CRS lors d'une manifestation aux abords de l'Assemblée nationale contre l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls. D'après l'accusation, il aurait arraché son insigne à un CRS. 8 mois avec sursis, requis contre un agriculteur jugé pour avoir aidé des migrants. Cédric Héroux est poursuivi pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Il a revendiqué devant le tribunal des actes politiques. Excédé parce qu'elles estiment être des idées fausses et des stéréotypes véhiculés par les représentants politiques, pas moins de 51 associations de lutte contre la pauvreté et contre le mal logement se sont unies hier pour interpeller ensemble les candidats à la présidentielle et lancer leur autre campagne, entre guillemets. Toutes ces organisations se disent prêtes à organiser des mobilisations devant les QG de campagne. Les Haïtiens n'en ont pas encore terminé avec leur présidentielle. Alors que la victoire de Jovenel Moïse a été officiellement actée par la commission électorale, ses principaux concurrents continuent à dénoncer un coup d'état électoral et refusent de reconnaître sa victoire. Accusé d'avoir abattu un assaillant palestinien d'une balle dans la tête à Hébron alors que ce dernier était à terre et sans armes, le soldat israélien Elora Azaria a été reconnu coupable d'homicide par la cour militaire israélienne hier. Il encourt 20 ans de prison. Il sera définitivement fixé sur son sort dans quelques semaines. Ce procès exceptionnel divise les Israéliens. Donald Trump qui fait appel à Henry Kissinger, oui vous ne rêvez pas, âgé de 93 ans, l'ancien secrétaire d'État de Richard Nixon reprend du service. Celui qui avait notamment contribué à normaliser les relations avec la Chine de Mao s'est proposé comme médiateur officieux, pas officiel, pour aider Donald Trump dans ses relations avec la Chine mais aussi la Russie. Un train de banlieue qui déraille, ça s'est passé dans le quartier new-yorkais de Brooklyn, il y a eu une centaine de blessés et ça s'est passé en pleine heure de pointe. Le train roulait vraisemblablement beaucoup trop vite, il s'est écrasé contre les butoirs de l'Atlantique Terminal. Des crèmes défrisantes, des bigoudis, des mèches, des bouquins aussi, oui parce que pour faciliter l'accès des femmes à la lecture, la Bibliothèque nationale de la Côte d'Ivoire a installé 23 mini-bibliothèques dans des salons de coiffure à Abidjan et dans des villes à l'intérieur du pays. Chacun dispose de 50 livres. Alors pourquoi les salons de coiffure? Eh bien tout simplement parce que les Ivoiriennes seraient particulièrement coquettes et qu'elles passeraient donc beaucoup de temps chez le coiffeur.
Non, ça nous a choqué.
Je m'empresse de dire.
On est avec Mina Sundiram. Là, Mina, vous m'avez dit qu'il y a un dérapage misogyne.
Oui, c'est très misogyne.
C'est pour ça que je m'empresse de dire tout ça, que ce ne sont pas mes propos.
C'est votre façon de l'interpréter. Parce qu'il y avait une vraie adhésion avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc moi, il a dit allez-y les nanas, vous pensez qu'à vous coiffer et à vous faire les ongles. Et nous, c'est Mina et moi, ça nous dégoûte.
C'est la directrice de la Bibliothèque nationale qui a dit ça, c'est pas moi.
Bon, d'accord.
Je précise quand même. C'est aujourd'hui que va se dérouler la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football à Abuja. Abuja, c'est la capitale fédérale du Nigeria depuis 1991, c'est pas très vieux. Il s'agit de désigner le joueur de football africain de l'année 2016.
Ils ont voulu désenclaver Lagos au Nigeria, donc ils ont préféré, c'était plus facile de sécuriser Abuja par rapport à Lagos. On en parlera tout de suite.
Et puis en cyclisme, Robert Marchand vient de battre le record de l'heure sur piste. Il a parcouru un peu plus de 22 500 km, soit 20 km/h de moyenne. Bon, voilà, on va quand même préciser qu'il est âgé de 105 ans. Ils ne sont pas beaucoup dans sa catégorie.
Non.
Je ne sais pas, je trouve qu'il y a de l'ironie, vous ne respectez plus l'humain.
Trop de légèreté.
Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas le... Parce que je trouve qu'on ne respecte pas l'humain. 105 ans,
plus
c'est trop.
C'est trop. Hein? Pour moi, là, j'ai entendu des choses. Je note, je n'oublie pas, je ne pardonne pas. Voilà, tout simplement.
Bah vous êtes aujourd'hui un homme Atmen, un homme à terre. Et juste avant le journal de Thierry Paret, vous étiez là, vous étiez festival, carnaval, vous étiez gala.
J'étais paillette, j'étais cotillon.
Vous étiez feu de camp, vous étiez joie, vous étiez...
Et là,
maman boulette. Est tombée de vélo.
Vous savez où est la compta, non?
Comment vous imaginez? Tout de suite.
7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Alors, Ahmed Kelly, vous avez de la chance, comme vous êtes comédien, vous recevez chaque année ce que les gens du métier d'acteur de cinéma, j'ai bouffé une voyelle.
Voilà.
Je sais pas,
à la Rocard.
Viens de la retrouver. Ça s'appelle le coffret des Césars. C'est pour pouvoir voter pour les Césars. On reçoit chaque année 300 films, tous les films qui sont sortis.
Tous les films qui sont sortis.
Et on peut regarder tous les films français. Là.
C'est une séance de rattrapage. On peut revoir des films qu'on n'a pas vus. Moi, j'avais pas vu La Palme d'Or, en fait. J'ai envie de me chiffrer.
Moi, Daniel Blake. Donc, vous l'avez vu en DVD.
En DVD, ce grand écran, et j'ai pris une gifle, voilà, parce que c'est vraiment un film qui parle du job center, qui parle des acédiques, de la perte d'emploi en Angleterre, et je savais pas que c'était aussi difficile, voilà. Et vous voulez que...
Qui vous a frappé sur la situation en Angleterre?
La situation en Angleterre, c'est très difficile d'avoir ces appointements. Le maximum, c'est 400 euros, enfin, c'est 700 euros, le maximum, d'indemnisation.
Sociale, oui.
Voilà, c'est 6 mois, maximum.
Donc vous avez appris des choses
c'est très dur. Là, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de chômage, mais c'est normal. Vraiment, c'est un parcours du combattant pour se faire indemniser. C'est horrible.
Mais comme spectateur de cinéma, qu'est-ce qui...
Moi, ce qui m'a frappé, c'est Ken Loach, qui est un grand cinéaste, a réussi à faire un spectacle sur quelqu'un qui cherche du travail et qui le perd. C'est formidable. Il suit une fille à un moment donné qui est dans un restaurant de nourriture et qui se jette. Restaurant de nourriture alimentaire, je l'ai mal dit. Excusez-moi.
Une banque alimentaire.
Pardon. Excusez-moi. Je suis ému déjà d'en parler. Parce qu'il y a une scène incroyable, elle n'a pas mangé, on ne le voit pas, et on lui donne une conserve, elle se jette dessus, elle arrache des raviolis à la tomate, et son visage est ensanglanté comme si elle avait mangé elle revient à l'état sauvage, quoi. Ça m'a vraiment frappé. Et puis la fin est hyper tragique, où le type, je vais pas révéler la fin, mais il y a vraiment un truc kafkaïen où tout d'un coup le type c'est incroyable, c'est un film incroyable où il y a vraiment Ken Loach dit une vraie grande chose sur la société anglaise et en racontant ça, il raconte aussi ce qui peut se passer en Europe. On retourne chez Dickens et on a vraiment peur que ça nous arrive nous en France.
Voilà. Alors, les gens de cinéma, il y a Ken Loach qui tourne et puis on a aussi en France Alain Chabat, mais je pense qu'à cette heure-ci, lui il dort, on va vérifier.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non ?
Réveillons un monument national.
Alain Chabat, cinéaste, comédien, homme de cœur, homme d'engagement, la main tendue, les yeux grands ouverts sur l'humanité. Hélas, à cette heure-ci, Alain Chabat n'est pas encore tout ça. C'est simplement le petit Alain dans son lit qui peut être entre ses rêves d'enfant et ses cauchemars d'adulte. Bonjour Alain.
Bonjour, j'aime bien me faire réveiller comme ça par vous.
Vous avez une des voix du matin les plus érotiques, et pourtant je ne suis pas de ce bord-là, que j'ai entendu depuis très longtemps, peut-être depuis Las Palais, il y a deux mois. Alain, vous me dites si je suis inconvenant, mais vous êtes dans votre lit ?
Oui, je suis dans mon lit, tout à fait.
Est-ce que vous êtes le genre d'homme à vous réveiller seul dans votre lit ?
Oui.
Regardez bien.
Oui, c'est vrai que c'est très personnel. Alors... Je suis seul là, oui.
C'est un choix, vous subissez la vie comme une paire de claques, ou c'est un choix, c'est une
force. Je ne subis jamais la vie, je vis la vie, je chante la vie.
Pardon. Je vous en prie, pas du tout, c'est bon, tout est de vous. Cher Alain, la lumière est encore éteinte là, à l'heure où je vous parle.
Il y a une petite lumière indirecte. Pas directement dans la chambre, mais enfin, il y a une petite lumière dans le couloir, en fait. Donc, ça fait pas trop agressif, du coup, c'est bien.
Est-ce que c'est cette petite lumière que l'enfant Alain exigeait déjà pour ne pas que sa nuit soit hantée de cauchemars et de sorcières ?
Peut-être, il y a peut-être de ça. Oui, peut-être.
Vous l'avez laissé ?
Je ne sais pas si je faisais des cauchemars beaucoup, peut-être, un peu, comme tous les enfants.
Et là, des cauchemars d'adultes ?
Cauchemars d'adultes, je...
Ça, c'est un marteau piqueur, ça.
Allô ? Allô ?
Non, je vous le dis franchement, vous êtes très légèrement endormi. Il y a une grosse déception pour vos fans. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous ronflez.
Que oui. Vous me réveilliez, vous m'appeliez. Je faisais un rêve fou. Vous m'appeliez et vous me réveilliez. Et vous étiez sur Nova le matin.
Non, c'est impossible à ces heures-là. Vous savez très bien que non, je suis au sport. D'accord. Comme tous les matins. Alain, vous avez enfilé un pyjama d'hiver ou vous avez choisi que votre corps était le meilleur vêtement pour cette saison ?
Mon corps est le meilleur vêtement. Je suis dans la couette fait office de pyjama.
C'est votre côté Marilyn Monroe, la peau, un peu de parfum et des draps. Voilà. Vous avez des petits rituels de réveil, Alain ? Vous êtes un homme café, un homme thé, comme dans cette émission.
Ce sont mes résolutions de 2017. Je vais essayer de ne plus être un homme café, je vais essayer d'être un homme thé. Depuis quelques jours, je fais du thé sencha parce que je bois trop de café.
Je vois très bien dans quoi vous êtes là. Ça va se terminer avec du yoga, de la méditation, vous allez faire chier tout le monde.
Non, mais je pense que c'est... Pourquoi manger du gluten toujours ?
Ah oui, d'accord, vous en êtes là.
Les graines. Oui.
Mon Dieu, on va le perdre. Alain, est-ce que vous êtes l'homme qui va vers sa douche sans réfléchir ou qui attend le soir pour ce moment d'hygiène et de rendez-vous avec son corps ?
Ah non, je vais directement à la douche à fond, j'adore, bien sûr, très important.
C'est une douche, très long, une douche complice, c'est-à-dire une douche chaude ou une douche agressive, une douche ennemie, la douche froide, la douche glacée, la Roman Polanski ?
Non, c'est une douche complice, c'est une douche douce, c'est une douche, je l'appelle. Elle est plutôt chaude. Plutôt
on est
chaude,
sur un jet vertical, plutôt, un jet directionnel
plus, un jet pluie. Un jet pluie, mais tout de même assez soutenu.
Pluie tropicale.
Voilà, plus tropicale. C'est une douche... En fait, elle est décorée avec des rochers.
Ah voilà.
Il y a comme une cascade.
Ah oui.
On fait venir de l'eau des viands directement des viands.
Ah oui, on n'est pas volé là. Oui.
C'était l'époque d'Astérix, j'avais un peu. Ah oui. Donc j'avais organisé tout ça.
J'avais gardé la douche. Alain, est-ce qu'on est sur un savon liquide, savon solide ou c'est simplement l'eau et le corps
Non, savon... Savon solide avec des petits grains, celui qui gratte un peu. Voilà, ça c'est bien. Mais je ne pourrais pas vous dire la marque, j'ai aucune idée des marques.
Bon, vous irez voir. J'ai deux secondes, vous pouvez aller voir.
Oui, Alain, est-ce que je vais prendre ma petite voiture de golf, c'est pas tout près.
Vous vous grattez, vous vous frottez, vous êtes à la main, vous pratiquez le grand toilette, vous êtes au gant de crin, vous êtes à la brosse. Moi, je ne sais pas, mon vieux, il faut m'aider.
Alors, je suis à la main.
Ah oui, la vôtre.
La mienne, oui. Tout à fait.
Parce qu'il paraît que dans le show business, il y a des mains qui, quand on est sous la douche, des mains arrivent. Non, ce sont vos mains.
Je ne suis pas. Oui, je suis resté très simple. Et puis, et quoi d'autre? Non, non, j'aime pas les espèces de trucs liquides, j'aime pas. Shampoing, donc, beaucoup de shampoing.
Shampoing doux, hein. Soyez gentil avec vos cheveux. Rien de trop corrosif.
Je suis très gentil avec mes cheveux. Ouais. Voilà. Ouais, tous les deux jours, ouais, voilà.
Vous avez une très belle chevelure pour un quadragénaire. Ouais.
Merci. C'est pour ça que je l'entretiens.
Est-ce qu'à côté de votre lit, Alain, il y a des notes que vous vous réveillez, vous êtes aperçu, vous avez noté des idées pendant la nuit, vous les retrouvez?
Oui, tout à fait. Alors, exactement.
Qu'est-ce qu'il y a écrit?
Alors, je regarde. Ah oui, j'avais une idée géniale dans la nuit, en plus. Alors... Un homme rencontre une femme.
Formidable. Et là, si Hitchcock l'a eu la veille, mais hein, c'est formidable. Faites-en quelque chose. Je vois le film, Alain.
Hein,
je peux jouer l'un des deux rôles. Je peux jouer l'un des deux rôles.
Vous pouvez tout jouer. Vous pouvez jouer les deux rôles.
Et j'ai Atmen qui est là, qui pourrait jouer ma fille. Alain, je veux pas rester...
Atmen peut tout jouer.
Il peut tout jouer.
Merci, Alain. Merci.
Je veux pas rester trop longtemps dans votre intimité.
Mais pourquoi? Moi, j'aime bien rester avec vous comme ça.
Mina Sundiram qui reste avec nous, peut-être ça peut être agréable pour Alain d'entendre une voix féminine. Comme vous avez une chanson, oui, peut-être à lui chanter.
Une chanson?
Oui.
Pour le matin?
Oui.
Une chanson douce que me chantait ma quoi?
C'était votre mère, je crois. À
ma maman.
Alain, on vous embrasse. Ouvrez grand votre lit. Je vais donner votre adresse à Paris à nos auditeurs. Donc c'est à Ménilmontant. Oui. C'est là. Je ne me rappelle plus le code.
C'est au 12. Vous demandez José et puis il vous indique.
Merci. On arrive nombreux. On verra si on a des auditeurs comme ça. Ouvrez grand. Je sais que c'est un des plus grands lits de France. Merci, cher Alain. Je vous aime.
Edouard. Moi aussi, je vous aime. Salut. J'embrasse tout le monde autour de vous.
Oui, il y a du monde.
Merci.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
C'est du génie, la diction de la nana de la pub orange.
Parce qu'elle doit aller très vite. Mêlée.
Elle doit aller très vite. Elle doit dire un nombre d'informations très emmerdantes, mais légales et d'autorité. Sans obligation de devoir d'achat. Attention, on est en train de vous arnaquer depuis 10 minutes. Tant pis, puis il faut d'abord des avocats. Ouais. Tout ça est possible si d'abord vous versez 8 euros, puis d'abord sinon les huissiers débarquent chez vous.
Mais en même temps, elle reste une femme sensuelle.
Et ça, c'est un vrai raison.
Il y a des castings.
Il est l'heure de Marie Missé. Gloire à ce moment.
Ah.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour.
Bonjour. Pendant que notre stagiaire de 3e de la semaine dernière nous apporte un cadeau, c'est une jacinthe? Alors attends, parce que tu es dans le journal de Marie Missé. Assieds-toi, on vient vers toi après. Pardon,
c'est
Marie.
Un bouquet ou c'est une jacinthe? Alors Thierry Parel le disait dans ses infos tout à l'heure, l'un des sujets qui fait la une aujourd'hui, c'est la pauvreté, notamment dans l'UMA, dont la une est un ordre. Arrêtez d'instrumentaliser la pauvreté, réglons-la. Et les chiffres que l'UMA donne dans son édito sont effectivement assez alarmants. L'INSEE recense 9 millions de pauvres en France et 14,1% de la population, dont un tiers d'enfants. Et si la pauvreté avait fortement baissé entre les années 70 et les années 90, la France compte 1 million de pauvres de plus depuis 10 ans. Le nombre de SDF a augmenté de 50% et rien que l'an dernier, les expulsions locatives ont augmenté de 24%.
En dessous de quel revenu on décrète qu'on est en état de pauvreté?
Alors je n'ai pas le chiffre exact. Il est dans l'UMA, il est aussi dans le Monde, c'est 900 euros à peu près. Alors pour aiguiser notre indignation, l'UMA n'hésite pas, quelques pages plus loin, à indiquer qu'au Canada comme au Royaume-Uni, en ce 5 janvier, ça y est, je les cite, les gros patrons ont gagné l'équivalent du salaire médian annuel de leur pays. La pauvreté, au-delà du constat, selon l'UMA, c'est le problème de la pauvreté, c'est que les propositions politiques pour l'enrayer n'existent pas, que l'utilisation des pauvres à des fins électorales est toujours là, sans jamais aller titiller les causes de cette précarité. Jean-Christophe Sarraud, daté des Carmons de Rancherie, toujours dans l'UMA, la tentation d'exclure l'autre pour s'en sortir est un récit qui fonctionne encore plus que le discours de vérité. Et c'est pas Eric Orsenna qui dira le contraire, il est l'auteur d'un texte pour le 1, qui s'intéresse cette semaine à la démondialisation. Il dit, aujourd'hui, on veut du simple, même si c'est faux. On préfère ce qui est faux à ce qui est complexe. Le complexe, on ne veut pas le comprendre. Les politiques veulent simplifier car on vote pour le simple. Ne parlons pas de populisme, parlons de simplisme. Bientôt, il n'y aura que des simplets au pouvoir. Parmi les nains, ce n'est pas simplet que j'aurais choisi pour diriger. Alors, si on ne sait pas de qui Hatchoum, joyeux, prof ou grincheux, remporterait les faveurs d'Éric Orsenna dans les urnes, en revanche, ces lectures m'ont étrangement fait penser à une autre lecture, celle du magazine Le Nez. Le Nez, drôle de revue, dont le numéro 2 est en librairie et qui, comme son nom l'indique, est consacré aux odeurs, principalement. Alors, ce numéro est consacré à une belle thématique, le propre et le sale. Et j'y ai pensé parce qu'on y raconte notamment l'histoire de cette famille très pauvre qui avait été expulsée en 2013 du musée d'Orsay parce qu'ils sentaient trop mauvais, que beaucoup de gens s'en étaient plaints. On les avait sortis. Dans ce dossier, on apprend donc que depuis longtemps, on accuse de puer celui qu'on veut exclure. Le mot putain vient du latin putida, par exemple. Celle qui pue. Le bruit et l'odeur pour Jacques Chirac, c'est l'étranger. Avec le développement de l'hygiène privée au XXe siècle, s'en est donc suivi une injonction non pas tellement à sentir bon, mais à sentir propre. Sentir propre, c'est un véritable passe-partout social. Et là où c'est marrant, là où la complexité refait surface, c'est que se développe en ce moment non seulement un mouvement qui trouve cette obsession du propre ridicule et anachronique dans un monde où on ne transpire presque plus, ce mouvement ça s'appelle les unwashed, ceux qui ne se lavent plus, et que l'industrie appelle les abandonnistes, hein, ceux qui ne veulent plus acheter de produits, mais il existe apparemment aussi dans l'industrie underground du parfum, la parfumerie alternative, c'est comme ça qu'on l'appelle dans Le Nez, un désir non seulement pas de sentir à nouveau, mais de sentir fort, presque de sentir sale. Lutens, par exemple, déteste la parfumerie nettoyée, sans corps et sans mémoire. Il faut que les parfums appartiennent à nos racines, à nos sueurs, à notre passé, à notre décadence même. Le nouveau chic, c'est le sale. Sur un blog très suivi de la parfumerie alternative, hein, j'ai vraiment l'impression de découvrir un tout nouveau monde, on décrit l'eau d'Hermès créée en 1951 comme l'odeur du slip de Robert Mitchum dans le sac de Grace Kelly. Bâle à Versailles créé en 1962, c'est le trou de balle du chat qui vire au crottin fermenté. Et ça, c'est un compliment. Le Nez, la revue, donc, a peu de solutions pour résoudre la pauvreté. Il en a revanche beaucoup pour interroger un sens très souvent négligé, oublié, relégué. Le Nez, un mec pas simple, comme les aime Éric Orsenna.
Vous êtes formidable, Marie-Missé. Oui. Merci beaucoup. Partons tout de suite dans la rue. On pourrait évidemment mettre de la musique, mettre de la pub, on pourrait faire autre chose. Mais partons dans les Jacques. Souvent, pendant ce temps, avec des... Allô ? J'ai pas fini.
Grèce, majesté, tiens bon. Il y a ce que interview dans la rue. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Vous avez j'ai une petite question. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir. C'est, on travaille plus de 4 heures par jour. Donc ça double votre temps libre. Qu'est-ce que vous faites, vous, de ce temps libre ?
Je voyage.
Voyagez où ?
Dans le métro parisien.
Salut. Grèce, majesté, tiens bon. Bonjour. On travaille plus de 4 heures par jour. Messieurs, dames, on travaille plus de 4 heures par jour. Monsieur, bonjour. Bonjour.
Il est où ?
Bonjour, monsieur. On ne travaille plus que 4 heures par jour. Qu'est-ce que vous faites de ce temps libre ? Bonjour. La liberté, pourquoi faire, monsieur ? La liberté, pourquoi faire ?
Non, j'ai pas le temps.
Il est très loin.
Bonjour.
Il est loin dans cette.
Bonjour. La liberté, pourquoi faire ? On ne travaille plus que 4 heures par jour. Tout le monde s'en fout, tout le monde veut bosser. Bonjour, monsieur. Non, voilà. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour. On ne travaille plus que 4 heures par jour. Ça double votre temps libre. Qu'est-ce que vous faites de ce temps libre ?
Ah non, je ne travaille pas 4 heures, moi. Je ne travaille pas 4 heures, moi.
Vous travaillez combien ?
Plusieurs heures.
C'est la nouvelle loi, on travaille plus de 4 heures.
Ah non, c'est pas possible.
Mais si c'est possible, pourquoi c'est pas possible ? Madame, bonjour.
Vous êtes où, Jack ?
Jack Paris.
Il m'inquiète, je suis très inquiet. Il est tombé dans la vodka.
Mais trop crimé, mon ami.
On travaille plus de 4 heures par jour, ça double votre temps libre, qu'est-ce que vous en faites ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Jack ?
Oui ?
Vous êtes où, cher ami ?
Mais je ne sais pas.
Vous voulez vous asseoir 2 secondes ?
Il y a du formica partout, j'ai l'impression d'être dans une salle de bain.
Dans quel quartier de Paris vous êtes ?
On ne travaille plus que 4 heures par jour. Ça double votre temps libre. Vous en faites quoi ?
Il est lancé.
Je pense que j'en profiterai pour faire tout ce qui tourne un peu. Autour de la culture, cinéma, sorties, etc. Voilà.
Et vous allez écrire un livre ?
Non, je ne pense pas.
Dommage. J'ai des choses à dire. Bonjour.
Jack, arrêtez. Mais vous tournez autour de la culture, vous aussi, Jack ?
Mais c'est génial. Moi, je tourne sur moi-même. Je danse.
Là. Non, mais Jack, je suis inquiet. Vous voulez pas vous asseoir 2 secondes ? Bon, peut-être prendre un verre d'eau ou un pot de lait, une brioche ?
Mais j'ai un temps limité.
Mais vous êtes où, Jack ?
Je suis dans le métro.
Mais quelle station ?
Je ne sais plus. J'ai avancé,
c'est
là.
Pour vous envoyer une équipe. Essayez de me dire où vous êtes. C'est mon devoir de chef d'équipe de vous envoyer quelqu'un. Dites-moi calmement, Jack. Tout va bien. Je vais m'avancer. Je suis pas armé. Dites-moi où vous êtes.
Vous savez, dans le métro...
Dans problème... quelle station?
Ne sais pas.
Non, Jacques, soyez, c'est pour votre bien. Regarde, j'ai les mains, regarde, j'ai rien dans les mains, j'avance très doucement vers toi.
Ne sais pas pourquoi. Madame cherche un truc dans son sac. Bonjour. Vous cherchez un truc dans votre sac, c'est quoi?
Ma gamelle pour ce midi.
Oh, la gamelle de maman.
Bah oui, au revoir.
Mais il y avait quoi dans sa gamelle? C'est pas un chat non plus, cette dame.
Bon. Je ne sais pas, elle est partie très vite.
Jack, c'est bon, on a eu le temps de vous retrouver grâce à mes équipes.
Je crois que je vais prendre une photo d'identité. Voilà. Pour mon passeport.
Envoyez la station de métro où vous êtes, on vous retrouve tout de suite. Mais voilà. Là, c'est l'instant Thierry Paret, sponsorisé par les plus grandes marques. 8h31, 34 secondes.
Et notamment les marques de foie gras. Une nouvelle épreuve pour la filière de foie gras dans le sud-ouest de la France. Le gouvernement vient de décider un abattage massif. 800 000 canards qui vont y passer. À partir d'aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre fin à la propagation rapide de l'épidémie de grippe aviaire. Selon une étude canadienne, les personnes qui habitent à proximité d'axes routiers très fréquentés auraient un risque accru de démence par rapport à celles qui en sont plus éloignées. Si vous habitez à 50 mètres d'une artère à forte circulation, eh bien selon cette étude, votre risque de démence est supérieur de 7% par rapport aux personnes qui habitent, elles, au-delà de 300 mètres. Le symptôme de la démence, c'est par exemple Alzheimer. C'est l'un des derniers procès consécutifs aux manifestations contre la loi travail. Valentin Frex va comparaître d'ici quelques minutes en correctionnel à Paris. Le 5 juillet dernier, il s'était interposé entre une documentariste et des CRS lors d'une manifestation aux abords de l'Assemblée nationale contre l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls. D'après l'accusation, il aurait arraché son insigne à un CRS. 8 mois avec sursis requis contre un agriculteur jugé pour avoir aidé des migrants. Il s'appelle Cédric Héroux. Il est poursuivi pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Il a revendiqué devant le tribunal des actes politiques. 300 personnes environ se sont rassemblées hier devant le palais de justice pour le soutenir avant le début de l'audience. On vit mieux ou aussi bien en touchant le RSA que le SMIC. C'est pour lutter contre ce type de contre-vérité qu'une cinquantaine d'associations de lutte contre la pauvreté et le mal-logement se sont unies hier pour interpeller ensemble les candidats à la présidentielle et lancer leur entre guillemets autre campagne. L'autre campagne commencera réellement à la fin du mois de janvier et se fera aussi sur internet avec la mise en place d'un site démontant les stéréotypes, les idées fausses. Les Haïtiens n'en ont peut-être pas encore terminé avec leur présidentielle, alors que la victoire de Jovenel Moïse a été actée, officialisée par la commission électorale. C'est Les principaux concurrents continuent à dénoncer un coup d'État électoral et refusent de reconnaître sa victoire. C'est un procès qui divise en Israël, celui de Elor Azaria, militaire israélien accusé d'avoir abattu un assaillant palestinien d'une balle dans la tête à Hébron, alors que ce dernier était à terre et sans armes. Le soldat a été reconnu coupable hier d'homicide par la cour militaire israélienne. Il encourt 20 ans de prison. Il sera définitivement fixé sur son sort dans quelques semaines. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a en tout cas demandé qu'il soit gracié. Donald Trump fait appel à Henry Kissinger. Vous ne rêvez pas, âgé de 93 ans, l'ancien secrétaire d'État de Richard Nixon reprend du service. Celui qui avait notamment contribué à normaliser les relations avec la Chine de Mao s'est proposé comme médiateur officieux pour aider Donald Trump dans ses relations avec la Chine, mais aussi
pour que cesse enfin le mur de Berlin, c'est le combat de Kissinger, ça suffit. Quand tombera enfin ce mur de Berlin, c'est ça, la première déclaration.
Retour vers le futur, là.
Où en est la course à la miniaturisation? Faudra demander aux chercheurs américains de l'université de Stanford. Ils ont réussi à assembler des atomes pour former les fils électriques les plus fins du monde. Pas plus de 3 atomes d'épaisseur grâce à de minuscules diamants. Les fils ainsi produits se composent d'un noyau semi-conducteur fait d'une combinaison de cuivre et de soufre enveloppé dans une coque isolante de diamantoïdes. Vous n'avez rien compris, c'est normal, moi non plus en même temps. C'est ce jeudi que va se dérouler la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football à Abuja, capitale fédérale du Nigeria. Il s'agit de désigner tout simplement le joueur de football africain de l'année 2016. Je donnerai son nom demain matin. Et puis pour finir, sachez qu'une chaîne de télévision saoudienne s'est excusée hier pour la diffusion dans le royaume ultra-conservateur d'une scène d'un programme de télé-réalité qualifié de pornographique. La scène concernée, assez furtive, montre des hommes qui dansent et à un moment donné, et là ça dérape complètement, l'un des hommes en prend un autre par les hanches.
Bah, et alors... Oui, mais c'est l'information, ah bah non, pas c'est pas ça exactement.
On peut pas faire ça.
Merci Thierry Paret. Je vais me coucher moins bête et plus instruit que je ne me suis levé. On a des visites ce matin. Nous avons la charmante Romy qui a été notre stagiaire de troisième semaine dernière qui nous a une fleur et un petit mot. Lis ton petit mot que tu nous as écrit.
C'est très bon pour mon égo.
Bonjour Edouard, Eugénie, Yacine et Thomas. C'était pour moi une joie de venir faire mon stage à Nova et d'avoir la chance de vous observer tous dans votre travail. Voilà. Tous ces moments ont été précieux. J'ai adoré me lever tôt et toquer au carreau de la boulangerie pour aller chercher les viennoiseries. Bien d'être à vos côtés pendant les émissions.
Voilà, c'est plus ça. Voilà.
C'était pour moi magnifique d'apprentissage. Grand souvenir grâce à vous. Et encore merci.
Et puis alors tu rajoutes là Edouard qui pourrait être mannequin, qui préfère faire de la radio et qui a un cœur gros comme ça. C'est ça que tu dis. Hein. Merci ma chérie Romy. Et puis on a le gagnant du jeu. Il y a quelques jours, nous avions un jeu de François Rollin. Giorgio, vous aviez gagné, vous étiez dans votre voiture. Moi, je n'avais rien compris au jeu alors que j'en étais encore à la première question. Vous étiez déjà à la dernière réponse. Atmen, mais ça c'est moins étonnant. Méné s'était endormi. Christophe,
j'ai pas compris.
Et Giorgio, vous aviez répondu. Et vous, au lieu de, je vous avais promis un cadeau.
Oui, la chemise d'Atmen Khalif.
Alors la chemise, non parce qu'il est en pull,
Et
vous pouvez avoir Christophe Méné chez vous une semaine et beaucoup de dames réclament ce cadeau-là.
Oui, c'est une chance. Profitez-en.
Un des meilleurs amants de Seine-et-Marne. Oui, il a été Mister Love Seine-et-Marne 2002 et 2003. Et puis en 2004, il avait pris de l'embonpoint. Voilà. Giorgio, merci.
Oui, merci à vous. Bah, du coup, c'est moi qui suis venu avec un cadeau.
Qu'est-ce que c'est alors ?
Un poème, parce que je trouve les enfants ont le monopole du poème.
Alors, un adulte, un poème.
Voilà. Alors, ça s'appelle « Lendemain de fête, on ne mange plus ».
Très bien. Pas trop long.
Pas trop long. Alors, très très vite. Un morceau de pain, un morceau de peine, je saisis mon sandwich comme un miséreux. Hier encore, je goûtais, je mordais bouche pleine des festins de riches au goût délicieux. J'ai la larme qui roule quand roucoule en moi des volailles farcies farla qui ne cocottent plus. J'ai le cœur serré de me retrouver face au quignon qui n'est plus ce qu'il fut. Je ressens ce frisson coupable des papilles aux souvenirs palpables. Je ressasse le homard à la nage, moi qui en pince pour les coques et les fruits du rivage. Je ruisselle des pieds aux aisselles d'une ribambelle de fromage avachi. Je me languis et me lamente du tourment qui me hante de les avoir oxy. C'est presque fini. J'entends encore les échos de la valse, des truffes éparses, d'un fin panettone aux éclats confits. Le liège qui saute et au fond de la glotte, les torrents en folie déversés à minuit. Mais l'instant d'après, comme un lait tourné, du faste au néfaste, le glas a sonné. C'est adieu, beaucoup... Ro, Tache, Fauchon, terminé
les
pitons.
C'est trop long, les enfants, c'est fini. Mais je suis obligé de t'interrompre parce que c'est l'heure où normalement on fait de l'audience et là ça tombe. On va donner une note à Giorgio.
Oui, ou une
Atmen.
Moi je mettrais, c'est un adulte un problème et pas un enfant. Ouais,
non, d'accord. Christophe Méné, vous avez apprécié le poème?
Moi j'ai apprécié le poème, je mets 9.
Marie Missé?
Moi j'ai beaucoup aimé le poème.
Mina Sundira, vous qui êtes spécialiste de gastronomie?
Moi je vous mets un très très bon.
C'est vrai. Voilà, c'est tout ça qu'on cherche à faire. C'est cette humanité, cette bienveillance-là. Il n'y a pas besoin d'avoir de talent pour s'exprimer. Il suffit
de gagner un jeu de
marre d'entendre des choses de qualité. Il n'y a pas que les gens qui sont doués ou qui travaillent qui ont le droit de s'exprimer. Voilà. Il suffit de 2-3 réseaux, 3 coups de fil. Allez, à tout de suite. Vous n'avez pas un peu de musique, de radio-musique ?
9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Je les ai mis face à face parce qu'il faut... par admiration, à 8h43, le grand Thomas Baumgartner, notre rédacteur en chef, un homme que tout le monde s'arrache et que nous avons réussi à garder avec nous, est face à Nicolas Cory, des jours de grand nom du journalisme. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Du revenu universel.
Oui, du revenu universel, du revenu minimum de base, de l'allocation universelle. Il y a plusieurs noms, Nicolas Cory, et ça pourrait être cette question-là un enjeu. C'est ce que vous dites dans cet article qui paraît donc sur lesjours.fr. Numéro 1, le premier épisode d'une nouvelle obsession, d'une nouvelle série qui s'appelle Idée Fixe. Ça pourrait être l'enjeu des primaires, voire des primaires de gauche, voire de la présidentielle.
Oui.
Une question en tout cas.
Oui, effectivement. Enfin, c'est effectivement en débat actuellement. On appelle ça effectivement revenu universel, aussi revenu de base. Ça fait partie d'une nouvelle obsession qu'on développe sur les idées qui vont être présentes dans la campagne électorale. Et on va essayer de raconter ça aussi sous forme d'obsession, parce que les idées, c'est aussi des gens derrière qui les portent. Et on s'est intéressé effectivement à ces militants qui militent pour le revenu universel depuis des années et qui là ont un peu leur heure de gloire, parce que Benoît Hamon s'est emparé de cette idée. Et il a fait hier une interview au Monde pour dire que ce serait la grande réforme sociale qu'il faudrait mettre en œuvre, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle aurait lieu comme le RMI, comme le RSA.
Alors pardon, rappelons, le revenu universel, c'est l'idée qu'en naissant, l'État doit nous verse une rente rien que parce qu'on est citoyen français.
Oui, exactement. Enfin, c'est vraiment une idée à l'origine très progressiste, oui, qui est que quoi qu'il arrive, on a le droit à une somme d'argent qui nous est versé tout au long de la vie. Alors, a priori, c'est plutôt à partir de la majorité qu'on verrait cette somme versée. Mais quand on est quand on est enfant, les parents auraient le droit, enfin, recevraient cette somme à la place de l'enfant.
Alors c'est très contraire un peu c'est presque présenté comme un droit à la paresse, à la moustaki par la droite qui au contraire est en train de beaucoup essayer de dire que le travail n'est pas assez payé et que les aides le sont beaucoup trop.
Oui, exactement. Alors je vous vois tout de suite, effectivement, vous imaginez un salaire, un revenu en échange de rien, effectivement, on se repose. On fait rien, c'est effectivement un peu le droit à la paresse, mais sauf que bon, c'est tout ça.
Ah, j'ai pas dit que j'étais contre, du tout.
Ben voilà, mais je vous vois bien venir. Mais en fait, tout ça, c'est aussi l'idée. Enfin, tout dépend du montant qu'on verse. Alors, il y a plusieurs thèses sur là-dessus, et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a des gens de gauche qui sont pour le revenu universel et des gens de droite. Alors après, effectivement, c'est un peu le montant qui différencie la droite et la gauche. La droite est grosso modo pour un montant faible et la gauche pour un montant plus important. Mais il y a aussi beaucoup de discussions, des gens à droite qui sont effectivement qui craignent que ça va entraîner la paresse, et à gauche aussi des gens qui sont contre le revenu universel parce qu'ils pensent que finalement ça va changer vraiment profondément la nature du travail et qu'on va pousser les gens finalement à ne pas travailler.
C'est une question morale quasiment de ce côté-là, en tout cas des opposants de gauche au revenu universel, c'est quasiment une question morale qui motive cette opposition. C'est quasiment tout travail mérite salaire et à l'inverse tout salaire devrait répondre à un travail. C'est ça.
Oui, c'est
ça l'idée.
C'est tout à fait ça. Et donc on trouve parmi les opposants à gauche quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon et au sein de la primaire les déclarations en faveur du revenu universel de Benoît Hamon ont été suivies de déclarations de Montebourg disant non, pas du tout. Un, c'est infaisable. Et deux, moi, je défends la valeur travail. Et d'ailleurs, c'est quelque chose... Enfin, voilà, la valeur travail, c'est quelque chose qu'on voit défendre à gauche et à droite. Et même Emmanuel Macron aussi a d'abord dit, moi, ça m'intéresse, le revenu universel. Puis finalement, il s'est déclaré contre. Donc, c'est assez amusant de voir que c'est un truc qui traverse les lignes politiques. Et on est des fois assez surpris de voir en se disant, ah tiens, un tel a dit ça, finalement... on ne s'attendait pas à ce que ce soit quelqu'un en faveur du revenu universel ou contre.
Du côté des tenants du revenu minimum de base, on se rend compte qu'effectivement, tout le monde ne parle pas exactement de la même chose et des mêmes conditions, mais ce que vous dites dans cet article sur les jours, Nicolas Cory, c'est que les tenants se sont mis d'accord pour être d'accord ensemble, malgré ces oppositions et ces divergences qui sont parfois profondes.
Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait des gens de droite et des gens de gauche, des militants. Ils se sont réunis au sein d'une association qui s'appelle Mouvement Français pour un revenu de base. Et en fait, leur idée, ça a été, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'est pas d'accord. Il faut quand même pousser cette idée et on verra qui l'emportera. Est-ce que ça va être une version de gauche qui va l'emporter ou une version de droite ? Aujourd'hui, c'est assez difficile de se dire qu'est-ce qui va l'emporter ? On voit que Benoît Hamon porte cette idée-là et que c'est plutôt un moment de gauche, on va dire, où on va entendre parler du revenu universel. Mais Nathalie Kosciusko-Morizet est en faveur du revenu universel et pendant la campagne des primaires de la droite, elle l'a aussi porté. C'est grand suspense pour savoir si ça va être une mesure qui va vraiment être portée plus loin. On verra si Benoît Hamon...
Il y a des pays où ça existe ?
Il y a des pays... Alors non, le revenu universel n'existe, on va dire, nulle part, mais par contre, il y a des expérimentations qui ont été lancées. Et depuis, en fait, tout récemment, là, depuis le début de l'année, en Finlande, il y a une expérimentation sur 2000 personnes, sur 2000 chômeurs. Donc on va leur verser une allocation chômage de grosso modo 500 euros. Et même s'ils retrouvent un travail, ils vont continuer à toucher cette allocation. Donc l'idée, c'est, par rapport à la crainte que des fois, quand on retrouve un travail, ce soit moins intéressant que si on restait au chômage. Bah, finalement, de toute façon, quoi qu'il arrive, eux, ils pourront continuer. Donc s'ils touchent un salaire... je ne sais pas, de 2000 euros, ils continueront à toucher l'allocation de 500 euros. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. Et vraiment, le revenu universel, c'est l'idée que tout le monde touche ce revenu universel.
Ça n'est pas à la place, ça n'a rien à voir.
C'est pas à la place. Donc, quel que soit son salaire. Oui. Donc, si on ne fait rien, on touche ce revenu, donc s'il est 500 euros. Et si on touche un salaire, de 10 000 euros, on continue quand même à toucher ce revenu.
Ah non, je croyais que je vous laissais la parole.
Ah oui,
dites-moi, le grand sujet, c'est quand même l'écart entre le premier revenu, entre le SMIC et les aides qui sont liées au non-travail. Non. Est-ce que ça veut dire une réévaluation du SMIC aussi ? Est-ce que ça va de pair ou pas forcément ?
C'est ça, en fait, qui est intéressant avec le revenu universel, c'est que quand on commence à rentrer là-dedans, c'est une autre façon de distribuer de l'argent, parce que des revenus qui sont déjà découplés du travail, ça existe déjà. Il y a déjà donc le RSA. Mais c'est en échange quand même une volonté d'insertion ou d'activité. Il y a aussi les allocations familiales. Hein. Voilà, quand on a des enfants, on touche de l'argent sans travailler. Mais là, ça modifie profondément l'idée que il faille avoir une situation précise. Là, c'est juste le droit de vivre, le fait de vivre qui donne un droit à toucher quelque chose. Et donc derrière, oui, effectivement, sur le SMIC, ça change profondément les choses, parce que c'est d'ailleurs une des critiques de Mélenchon, c'est de dire le revenu universel, c'est quelque chose. Donc si on le verse donc 500 euros pour les libéraux, Benoît Hamon lui réfléchit à 800 euros, de revenu universel de 800 euros. Donc 800 euros, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça ne suffit pas à sortir les gens de la pauvreté. Donc ce n'est pas une réforme progressiste pour Mélenchon. Mais en fait, en même temps, ça devrait s'associer à être cumulé avec d'autres, avec les revenus, si quelqu'un, effectivement, travaille. Et qu'est-ce qui peut arriver à la fin? C'est qu'effectivement, les entreprises, voyant que tous les salariés ont déjà un revenu de base, se disent, ça ne sert à rien qu'on verse des salaires très élevés, puisque les gens, de toute façon, vont avoir un même pouvoir d'achat. Donc, ça peut être aussi une façon d'aider les entreprises à verser moins de salaires. Donc, ce n'est pas forcément aussi une bonne chose pour les travailleurs, et ça peut changer, effectivement, l'état des forces entre les salariés et les dirigeants.
J'ai compris. Merci beaucoup.
Moi aussi.
Vous aussi.
Presque. Bon. Mais il faut lire l'article.
Il faut lire l'article dans les jours. Merci Nicolas Corry.
Merci.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
Alors c'est la fin. On a la chance, on a un live. Il y a Dom Lanena, Dominique Pinto, dit Dom Lanena, qui est là, qui va jouer pour nous dans le grand froid du Café Nova. Mais Jack, souvent ?
Oui.
Vous êtes avec un saxophoniste, je crois, dans la rue ?
Oui, et un sacré saxophoniste. Alors, on joue à la manche, en général, dans la rue et tout ça. C'est pas la bonne saison, vraiment. Mais je suis avec Étienne.
Qui joue Étienne, d'habitude ?
Bonjour.
Bonjour Étienne, vous jouez où ? Où est-ce que Jack vous a entendu ?
À Bastille. J'étais en train de jouer à Bastille, dans le métro.
Oui.
Et puis il est arrivé, il m'a sauté dessus et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais demain ?» Bon, je dis « Ok, mais je suis un peu en retard, désolé. »
Alors on est en retard, cher Étienne. Est-ce que vous avez la gentillesse de m'accompagner pendant que je quitte le studio pour aller dans le Café Nova, m'accompagner au saxo ?
Ah, mais bien sûr.
Voilà, je suis accompagné par Étienne. Voilà, au téléphone, c'est parti. On vous écoute, Étienne, et je marche vers le studio, vers Dom Lanena. Oui. Il a une voix magnifique, Étienne. Vous avez une voix extraordinaire. Vous avez une voix de crooner. Vous avez une voix. Voilà. Sur quelques notes d'Étienne, je vais dans le studio. Je vais à côté. Je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas si j'arrive à bien m'insérer dans le morceau. Voilà, je suis accompagné. Rudy me fait signe que les sons se mélangent bien grâce au grand talent de Manu et de toute l'équipe. Rudy, bonjour.
Bonjour Edouard. C'est une magnifique introduction.
La grande Dom Lanena qui est là, qui s'est couverte de châle, de couverture. Elle a son instrument, elle est prête à jouer. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet artiste ?
Bien sûr, et avec le saxo derrière, c'est encore mieux, parce que je voulais de la douceur. Plus près de toi, plus près de nous, plus près de Dominique Pinto, dit Dom Lanena. Dom est avec nous ce matin pour nous faire marcher en équilibre, tout en douceur, bras de funambule sur un fil. Sur son fil, le fil de sa vie, une vie aux mille facettes, aux multiples horizons, aux belles rencontres, une vie sans calcul, une vie tout en murmure, mise en musique par les cordes de son violoncelle sur lequel on avance tout doucement entre mélancolie et beauté pure, intimité et simplicité. La Nena, la petite en espagnol et en portugais, quand elle ne compose pas, aime aussi, comme les enfants, chanter les chansons des autres. Celles de son enfant, celles de ses souvenirs, elle se compte au nombre de quatre, dans quatre langues différentes, sur ce nouveau splendide mini-album Cantando. On va en écouter deux extraits ce matin. Le premier morceau, c'est Gracias a la vida, un grand classique de la musique chilienne de Violeta Parra. C'est en espagnol. Je vais citer juste Pessoa avant que la magie opère. La beauté est le nom de quelque chose qui n'existe pas et que je donne aux choses en échange du plaisir qu'elles me donnent. Dom, merci de nous bercer ce matin.
Bravo Rudy. Toujours le flow de Rudy.
Un flow plus calme ce matin. Merci Dom.
Merci.
À toi.
Merci à la vie. Dom Lanena, merci beaucoup. À vous tous aussi, passez une très belle journée.
Edouard Baird.
7h-9h. Plus près de toi.
Point final.